L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, le magazine de Radio Évasion, du lundi au vendredi en direct à midi et rediffusé à 18h. Un magazine, vous le savez, ancré dans le Finistère, mais pas forcément dans le présent. Voilà que ça nous reprend. Comme l'an dernier, on cherche à voyager dans le temps. La faute au Centre départemental d'archéologie du Fou et sa cohorte d'archéologues qui nous emmène à travers les siècles. Aujourd'hui, on ne s'éloigne pas trop. Juste le Moyen-Âge avec un médiéviste, Ronan Perennec. Pas trop loin non plus géographiquement, du côté de la Roche-Maurice, avec le plus vaillant de nos châteaux forts finistériens voisins, l'ancien Roquemorvan. Il fait l'objet de fouilles archéologiques programmées et confiées au centre départemental. On commence à le connaître un peu, ce château, même si on ne sait pas vraiment depuis quand un château se dresse sur ce promontoire. L'édifice actuel, qui a la forme de belles ruines, disons, est à partir du XIIIe siècle, mais son histoire est complexe. Bonjour Ronan Perennec.
Bonjour.
Alors déjà, pour commencer, la question un peu rituelle. Maintenant, malheureusement, quel est l'impact de l'épidémie sur les fouilles du château? Enfin, quel a été l'impact cet été?
Ça réduit le nombre de fouilleurs, déjà considérablement. Mais il a fallu que j'abaisse la jauge, en fait, pour qu'on soit plus à l'aise, en fait, à même de faire face, en fait, à l'épidémie. Et puis, j'ai eu des désistements pour cause d'épidémie, justement. Donc, on s'est retrouvé parfois... avec deux fouilleurs de moins.
Sur une dizaine, hein, c'est ça?
Sur une dizaine, oui, on était 8. Donc, voilà. Ça a obligé aussi à désinfecter systématiquement les outils, donc à attribuer des outils personnels à chaque personne.
Ce qui est faisable, enfin, ce n'est pas des outils trop complexes la plupart du temps?
Non, mais non, ça pose des problèmes plus pour les objets, j'allais dire les outils communautaires, les brouettes et les. Voilà. Donc, c'était pour ça qu'on n'a pas vraiment trouvé de solution. Quoi. Mais pour le reste, oui, autrement, on désinfecte systématiquement tous les outils, les casques, à chaque changement d'équipe aussi.
Ces fouilleurs, ils viennent d'où en général?
Ils viennent de la région principalement, mais de la région de Bretagne. Mais j'en avais qui venaient de Paris aussi.
Et ce sont des bénévoles ou ils sont payés un peu?
C'est des bénévoles, oui.
Mais ils sont hébergés gratuitement, quand même?
Ils sont hébergés gratuitement, oui, donc à l'auberge de jeunesse de Brest, donc qui facilitait grandement pour nous le logement, puisque ils avaient mis un programme en fait de lutte, contre l'épidémie, hein, et donc en diminuant le nombre de personnes par chambre, en augmentant le nombre de chambres pour les groupes, donc on avait des conditions de logement qui étaient différentes de celles qu'on avait d'habitude avec. C'est-à-dire moins d'entassement dans les chambres.
Et donc à Brest, bon, ce qui n'est pas tout près de la Roche-Maurice, mais voilà, c'est comme ça.
Oui.
et ça n'a pas raccourci la période de fouille. Enfin, c'est toujours un mois
non,
l'été.
C'était toujours un mois. Oui.
C'est quand? C'est en juillet, ça?
Mi-juillet, mi-août. Oui.
Alors, est-ce qu'on peut refaire un bref historique des différentes phases de vie de ce château? Parce que le château de la Roche-Maurice, évidemment, c'était un château qui a connu une longue histoire. Donc, est-ce qu'il y a des grandes phases et lesquelles?
Oui, alors je vous entendais tout à l'heure. Ça commence en fait au XIe siècle.
Ah, hein, pardon.
Ça commence au XIe siècle. Et on en a. Donc, alors, il y avait. Enfin, Patrick Carnevez de l'Université de Brest avait déjà émis cette hypothèse sur des bases de toponymie. Donc, le nom Roquemorvan. Hein. Mais on en a maintenant la preuve archéologique. Mon siège vient de s'effondrer. On en a la preuve archéologique avec donc la mise au jour dans l'angle nord-est de l'enceinte basse, en fait, de celle qu'on est en train de fouiller. Donc la plus loin du possible du donjon, en fait.
Ouais, parce que c'est le donjon qui est un peu l'emblème du château.
Il est au centre. En fait, c'est un château avec des enceintes multiples et il est vraiment au centre de deux enceintes.
Hein. Mais jusqu'à présent, c'était la ruine la plus ancienne, le donjon. Enfin, si
oui, c'est la seule qu'on. Enfin, c'est pas dire que c'est la plus ancienne. C'est aussi celle qu'on connaissait le mieux, puisque c'est la seule qui avait été fouillée.
Et c'est celle-là qui était du XIIIe siècle, enfin, à partir.
Et
du
donc,
13e
on
siècle.
Avait, oui, une campagne XIIe, une réfection XIIIe, en fait, sur cette partie-là. Alors, la difficulté dans l'enceinte haute, dans l'enceinte aristocratique qui avait été fouillée, c'est que les structures se sont superposées, pardon, et qu'en fait. Jocelyn Martineau avait pu mettre en évidence des niveaux antérieurs au XIIe siècle, mais pour lesquels il avait une datation extrêmement large. Il avait une datation quasiment 10-12e, enfin un très large 11e siècle. Donc il n'avait pas et aucune structure associée, enfin rien. Enfin, voilà. Nous, dans l'enceinte basse, donc sur cet angle, l'angle nord-est, là, on a pu mettre au jour une partie des courtines, donc une partie du rempart, en fait, un angle de rempart du XIe siècle, avec un fragment de sol associé qui a été daté par carbone 14. Donc on a un intervalle de 978-1027, donc c'est très court.
C'est
donc
précis.
On va retomber sur une datation vraiment 11e. Donc, et pour, ça a aussi un impact important parce que ce château-là, on a maintenant la preuve qu'en fait, dès sa création, il est aussi grand, qu'il a une ampleur aussi importante que les forteresses qui vont suivre.
Ah oui, c'est pas décalé, plutôt, il n'était pas plus à l'est, par exemple.
Non, il ne s'est pas agrandi au fur et à mesure.
Ah oui, il était toujours au même endroit.
Tout de suite, c'est un grand château d'entrée de jeu. Et puis, il est contemporain de l'émergence des grands lignages, là, des vicomtes de Lyon, de Cornouailles.
Et on est sûr qu'il n'y a pas eu, parce qu'il aurait très bien pu y avoir une forteresse en bois dont on n'aurait pas pu trouver de traces avant ce château du XIe siècle. Ça, on ne peut pas le savoir.
Non, on ne peut pas. En fait, on n'a pas d'ancrage, de poteaux, on n'a rien. Mais bon, c'est vrai que ça peut être masqué par les maçonneries successives. Mais le rocher se prête. C'est un rocher de quartzite qui n'est pas très bien. C'est la roche la plus dure à tailler.
Ah ouais, on ne peut pas creuser les trous de poteaux.
C'est pas très facile. Ça ne s'y prête pas trop, en fait. Ça, ailleurs, en fait, l'emmottement, ça a été quelque chose de très répandu parce que c'est relativement facile à faire, en fait. On fait un fossé et puis qui va faire le...
Pour faire une motte féodale, c'est
douve,
ça
et puis, oui, ouais. Et puis la terre qu'on a enlevée du fossé, en fait, on va faire une butte artificielle sur laquelle dont on va se servir en fait, comme fortification. Alors que là, en fait, on a déjà une butte artificielle qui est un rocher, une éminence.
Et c'est en quoi? C'est en granit?
En quartzite.
Ah oui. Donc c'est dur, quoi.
Et c'est dur. Et en fait, ça ne se prête pas tellement à la création de trous de poteaux pour installer des bâtis en bois. Par contre, pour la maçonnerie, oui, ça...
Et ce fragment de sol du XIe siècle, il est composé de quoi exactement?
C'est un petit sol de terre battue, en fait.
Ah oui, donc c'était de la terre battue. On ne mettait pas déjà des dalles de schiste?
Non, puis c'est très, très, très restreint. Et le XIe siècle, le niveau est très inégal. Enfin, il y a des fragments de rochers qui sont apparents. Enfin, il n'y a pas de volonté de nivellement. C'est vraiment on s'est mis dans le rocher avec toutes ces irrégularités. Donc, c'est pas très pratique. Et au XIIe siècle, quand ils vont reconstruire, ils vont niveler. Enfin, ils vont apporter pour ça qu'on a en fait cette trace de cette conservation de ces maçonneries et de ces sols. C'est que au XIIe siècle, il y a eu un apport considérable de remblais. Dans la partie qu'on fouille, nous, il n'y a pas eu. On a moins l'exploitation de carrières que Jocelyn avait pu mettre en évidence dans l'enceinte haute, Jocelyn Martineau. Mais par contre, on a au contraire, ça a été une partie des maçonneries ont été figées par l'apport de remblais de manière à augmenter le niveau du sol pour compenser les inégalités du terrain, les pentes de terrain. Ils ont tenté d'augmenter par endroits le relief pour atténuer les différences de niveau.
Donc ça, c'est ça que vous avez fouillé cet été. Finalement, c'est la partie la plus ancienne du château. Enfin,
non,
on peut dire ça.
Oui, c'était l'année dernière, en fait.
Ah oui. Et ouais. Donc cet été, c'était quoi
Cet été, on fouillait une petite cave, en fait, dans...
Il y avait une petite cave.
Une petite cave. Et puis, autrement, sur le front nord, en fait, j'ai repris... Il y en avait une anomalie liée à une citerne. Et... Donc, une anomalie dans la courtine, en fait. Et voilà, on a une tour qu'on a pu mettre au jour, une nouvelle tour. Là.
Ah ouais, une nouvelle tour. Et de quelle époque, à peu près?
Et voilà, je n'ai pas encore de datation absolue, mais apparemment, elle serait plutôt 13e, en fait.
Donc, ce château, il est né à peu près, on va dire, au 11e, voilà, entre 978 et 1000 et quelques. Ouais. Et ensuite, alors, quelles ont été ses vies?
Séville, alors, c'est un château des vicomtes de Cornouailles. Il est créé par les Cornouaillais pour défendre leurs frontières contre les Léonards. Donc, c'est l'Élorme qui fait la frontière, qui passe au pied. Et puis, dans le milieu du XIIe siècle, vers 1163, il y a une guerre féodale entre les vicomtes de Cornouailles et les vicomtes de Lyon qui s'emparent de la Roche-Maurice, de Daoulas.
Donc c'est les vicomtes de Léon qui gagnent du terrain.
C'est les vicomtes de Léon qui gagnent du terrain. Donc ça va être l'Orforgerès, ils la reconstruisent. En 1180, en fait, ils ont pris pas mal d'assurance, et tellement que voilà, ils sont en révolte régulièrement contre le duc qui du coup prend des mesures punitives. En fait, ça va être avec une scission de la seigneurie, et le seigneur de Lyon, enfin la branche cadette va devenir seigneur de La Roche-Maurice. En fait.
Oui, il y aura un seigneur de La Roche-Maurice.
On va plus avoir les vicomtes de Lyon, mais les seigneurs de Lyon. Donc la vicomté de Lyon est coupée en deux, une partie pour les vicomtes de Lyon, le frère aîné, une partie pour un cadet, le seigneur de Lyon. Ça limite les risques de,
voilà, de puissance.
De puissance, ça divise un peu la seigneurie.
Bon. Et donc ce château, alors là on est au 12e, c'est ça?
On est à la fin du 12e siècle. Oui.
Et alors ensuite, est-ce qu'il y a une autre étape importante?
Ah oui, parce que c'est un château imprenable, qui a été conçu comme étant un château imprenable, mais qui est pris régulièrement à chaque fois qu'il en a besoin. Donc ça n'a pas empêché les seigneurs de Lyon de se révolter régulièrement avec leur branche aînée contre le duc. Donc en 1240, il y a une grande révolte de vassaux du duc, en fait. Et pour mater tout ça, en fait, le château va être détruit.
À nouveau.
Encore une fois.
Et reconstruit.
Ce n'est que le début. Donc il est reconstruit, et là, on a une reconstruction qui, par contre, est extrêmement intéressante pour nous, puisqu'on a un programme d'envergure où on va. Les constructeurs vont s'affranchir un petit peu du parti pris. Qui préexistait au XIe et XIIe siècle, pour avoir, pour pousser les murs un petit peu, pour agrandir le château, pour avoir l'enceinte basse va devenir beaucoup plus rectiligne, on va avoir quelque chose de plus normé.
C'est là qu'ils construisent le donjon.
C'est là qu'ils reconstruisent en fait une partie du donjon, et qui reconstruisent en fait ce qu'on était en train de fouiller cet été, là, la tour, une partie de la courtine du côté nord. Là.
Et de cette période XIIIe siècle, il y a encore de beaux restes.
Il y a de beaux restes, oui. Bon, ils sont un peu râpés, mais il y a de beaux restes. Oui.
Donc là, le château, il a son étendue maximale au XIIIe siècle, c'est ça? Ou est-ce qu'il va encore s'agrandir après?
Non, il a son... Alors, oui.
Ah.
Oui, oui et non. En fait, il a son étendue maximale, on va dire. Sauf pour les ouvrages extérieurs, puisqu'on a pu mettre en évidence lors de la création de la Maison du patrimoine en 2016... Donc j'ai fait un sondage là, et on a pu mettre en évidence la présence d'une, enfin ce qu'on appelle un boulevard d'artillerie, un ouvrage de l'autre côté du fossé qui borde le château au sud. Donc au XVIe siècle, on a un boulevard d'artillerie, donc une batterie de canons on a deux ponts-levis pour accéder au château, un premier qui passe dans ce boulevard d'artillerie, un deuxième qui mène au château. Et en fait, on a pu mettre en évidence qu'il était construit sur un ouvrage antérieur, voilà, qui n'est absolument pas daté. En fait.
Ah oui.
Et donc sans doute de la fin du 15e ou de la fin du 15e, mais on n'a pas du tout d'éléments de datation. Pour...
Et sinon, est-ce qu'il y a eu d'autres grandes périodes de reconstruction après le 13e?
Quasiment tous les siècles.
Hein, ah ouais, c'est ça, tout le temps.
Après la guerre de succession de Bretagne, on a une reconstruction à la fin du 14e. Alors qu'il va de pair, là, du coup, avec un changement de propriétaire pour le château. Donc, on n'a plus les seigneurs de Lyon. Ça passe par mariage au vicomte de Rouen.
Donc, voilà.
une grande famille. Et là, on a des modes de construction qui vont changer aussi. Sans doute, peut-être liés à l'arrivée de ces grands seigneurs. C'est-à-dire qu'au lieu de construire les murailles sur les affleurements rocheux, à plusieurs mètres de hauteur, eh ben, on va décaler les remparts pour descendre à l'aplomb des rochers. Alors, on a une moitié du mur qui est construit en hauteur, l'autre partie qui descend en partie basse, donc avec des maçonneries plaquées contre les rochers et les maçonneries antérieures. Bon, militairement, je me dis que ce n'est pas forcément ce qui se fait de mieux.
Oui, c'est ce que j'allais demander.
En cas de choc, de projectiles, de trébuchets, ou de choses comme ça, on peut avoir des éboulements. Mais... ça a sans doute deux avantages, entre guillemets. C'est d'une part la dissuasion, parce que les murailles paraissent beaucoup plus hautes. Et puis, donc, le château paraît beaucoup plus imprenable comme ça. Et ensuite, la hauteur des murailles elles-mêmes, c'est un signe aussi de la puissance du seigneur. En fait. Un signal envoyé à tout le monde. Quoi.
Donc, les rochers aident, quelque part. Et alors ça, on est au 14e, fin du 14e. Et quand est-ce que... Enfin, il a toujours été défensif, ce château, ou est-ce qu'il y a un moment où il va devenir plutôt résidentiel et puis,
Non, il a été résident... Enfin, oui, il a été résidentiel. On a un vicomte qui est... Enfin, comme un seigneur de Lyon qui est né, en fait. Hein. Mais il est... Oui, ça reste une forteresse, en fait. Quoi.
C'est jamais un lieu de villégiature, toujours, hein. Vraiment, quoi. Si, à la fin, peut-être.
Jamais complètement. Non, les Rouens ne résident pas, en fait, à la Roche-Maurice. Hein. Ils ont un capitaine qui garde la place. Et oui, non, c'est pas. Enfin, c'est un gros château, mais qui est jugé à la fin du XVe. C'est qu'on a un texte lors d'une nouvelle destruction à la fin du XVe, dans le contexte de la guerre franco-bretonne, on a un texte qui nous dit qu'il est détruit volontairement là, du coup, par son propriétaire, quasiment par l'armée française, puisque le vicomte de Rouen est du côté des Français et pas du côté des Bretons. Et il est détruit parce que l'armée française tient Brest et ne pourra pas tenir les deux places en même temps. Et donc on a un texte qui nous dit que la Roche-Maurice est jugée trop puissant, en fait, pour permettre qu'on le laisse. Ça serait un danger pour Brest si une armée ennemie pouvait s'y retrancher, en fait.
Et oui, on n'en a pas l'impression, mais c'était ce qu'on appelle un gros château.
C'est un gros château.
Ah oui. Bon. Très bien. Et donc, est-ce qu'il a été reconstruit après cette phase-là
Oui, il est reconstruit. Oui, il est toujours reconstruit. Ah, oui. Donc, il est détruit à la fin en 1489, à la fin du XVe siècle. Mais on a un texte déjà en 1493 qui nous signale déjà que les travaux ont repris. En fait, on a des devis de charpente pour refaire le pont-levis, pour faire des travaux sur les prisons. Et puis, on a une tour d'artillerie qui est encore présente actuellement, mais qui n'est qu'une partie de tout ce qu'on va reconstruire sur le site. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on construit Alors, le premier ouvrage construit, c'est la tour d'artillerie. C'est ce qui ressort, en fait, des remblais que nous, on a en fouille. On a des remblais qui sont issus des démolitions avec des tris des matériaux. On démolit les anciennes constructions pour reconstruire quelque chose de neuf. Donc là, au lieu des remparts médiévaux, on va construire une grosse tour d'artillerie. Et donc, on récupère les moellons, mais tout l'intérieur des murs, ça fait une masse de remblais, donc d'argile, de petites pierres, dont on ne sait pas quoi faire, en fait, quoi, qui ne sera pas réutilisé. Et donc, elle est épandue à l'intérieur de l'enceinte. On a des épandages en éventail, en fait, qui nous donnent le sens de... Comment ça...
L'application.
Ouais, par où ça c'est arrivé et comment ça a évolué. Donc on sait d'où c'est parti et ça c'est vraiment le premier ouvrage mis en œuvre lors de cette reconstruction, c'est la tour d'artillerie. Et elle va de pair après avec le boulevard d'artillerie qui est à l'extérieur avec une petite casemate en fond de fossé donc qui protège le fond de fossé pour éviter que des assaillants ne le franchissent. Et puis toutes les courtines, enfin toutes les remparts en fait sont reconstruits. Donc voilà. Et une fois que tous les remparts sont reconstruits, et seulement à ce moment-là, comme pour toutes les reconstructions précédentes, une fois qu'on a construit les défenses, on reconstruit l'intérieur. Et là, on le sait parfaitement, parce qu'ils recreusent en fait dans les remblais qui viennent d'épandre pour assurer les fondations des bâtiments. Et ce mode de construction, il est tout simple. Hein, c'est d'abord D'abord, on va vite en fait et on fait les remparts. Une fois qu'on a les remparts, le château est ce qu'on appelle en état de défense. Et donc, on peut lever à nouveau l'impôt sur le droit de guet qui est très lucratif à l'époque.
D'accord.
Donc, on a intérêt à faire très vite en fait. Hein. On fait d'abord la carcasse extérieure et ensuite seulement les aménagements internes.
Uh-huh. Et à chaque fois, il y a des aménagements internes quand même.
Il y a des aménagements internes. Mmh. Oui, on ne pourrait pas vivre dans le château sans les bâtiments en fait. Oui.
Et alors, il y a eu une vie de château quand même, même s'il n'y avait pas de résidence forcément, il y avait quand même une vie de château.
Il y a des gens qui y sont, oui. Y a
alors, c'est qui ces gens?
C'est le capitaine de la place, c'est la garnison. Enfin, il y a du monde. Et donc, justement, dans la petite cave qu'on fouille actuellement, mais pas uniquement, mais on a des couches de... Alors, voilà, on fouille des dépotoirs.
Mais c'est ça l'intéressant pour un archéologue, on sait.
Les poubelles. Les poubelles, ben oui. Et donc, on a énormément de choses qui ont été jetées lors de la reconstruction du château, enfin à la fin 15e, début 16e. Et voilà, on a.
Alors quoi?
beaucoup d'éléments, beaucoup de céramiques cassées, en fait, donc qui vont permettre de reconstituer le, j'allais dire, le vaisselier de l'époque, c'est-à-dire quel type de récipient, quel usage éventuellement, mais aussi les provenances.
Ah oui,
de, voilà, quels ateliers les ont fabriqués.
Ah ouais. Il y a des choses étonnantes, ils viennent de loin, ces vaisselles viennent de loin.
Oui, on a la partie la plus fonctionnelle, en fait, elle vient, ces ateliers qui sont proches, mais on a des ateliers qui viennent de l'est de la Bretagne. Et puis on a, alors ça n'est attesté que par un unique fragment, mais une faïence espagnole de la fin du XVe siècle, donc de la région de Valence. Donc on a des choses qui viennent aussi de, qui sont plus luxueuses, en fait, qui viennent de plus loin. Et puis on a autrement, alors énormément de petits mobiliers métalliques, alors assez fragmentés, très corrodés.
Oui, ça ne se garde pas toujours bien le métal.
Non, c'est dans un sale état. Donc, mais ceci dit, ça nous permet aussi d'avoir des informations sur, on a quelques objets, des choses comme ça. Quoi. Mais le principal mobilier, c'est-à-dire, selon le terme archéologique du terme, ce sont les ossements et puis les restes de poissons. Donc là, on a des milliers. En fait,
Ça se conserve.
Ah, ça se conserve, ouais, là, ça se conserve bien.
Les arêtes de poissons, ça se conserve.
Ça se conserve, on a des écailles aussi, oui, ça se conserve. Oui.
Ouais.
Et donc là, on est obligé de... Enfin, je prélève les couches en entière.
Ouais.
Qu'on t'a mise après. Quoi.
Et qui les analyse alors ? Il y a des spécialistes des arêtes de poissons, c'est ça ?
Oui, il y a des spécialistes. Oui, il y a des...
Comment est-ce qu'on les appelle déjà ?
Il y a des archéozoologues qui sont spécialisés dans l'étude des... Alors pour certains, ils font les mammifères et les poissons. Et puis il y en a qui ne font que les poissons.
Ouais. Mm-hmm.
Ou,
et qu'est-ce qu'ils mangeaient comme poisson ? Est-ce qu'on sait déjà ? C'est trop tôt, non, pour savoir ce
qu'il... Pour l'instant, c'est trop tôt, parce qu'il n'y a pas eu d'études de fait, mais il y a de la dorade, il y a des poissons, oui, marins.
Des coquillages aussi ? Qu'est-ce qu'il y avait comme coquillages ?
Les coquillages, il y a des huîtres, principalement des huîtres.
Et la viande, c'était
quoi ? La viande, il y a de tout.
Ah ouais.
Ouais, on a aussi des oiseaux, on n'a pas que des gros mammifères, en fait. Et puis il y a énormément de... Je pense qu'on va avoir il y a pas mal de petits crânes, donc je pense qu'on va avoir peut-être que ce soit des oiseaux, mais peut-être aussi des rongeurs aussi qu'on va peut-être avoir.
Et on n'a pas les végétaux, c'est ça qui manque en fait, pour savoir exactement quel était leur menu.
Non, on n'a pas les végétaux.
Leur ordinaire. Et donc on peut supposer que c'était il y avait pas de problème d'alimentation, que c'était des populations bien nourries. On peut savoir ça déjà ou
oui,
c'est un peu tôt ?
C'est un peu tôt, mais ça reste un habitat élitaire quand même. C'est pas la nourriture de tout le monde, mais ça permet au moins d'avoir des renseignements sur. Alors ça va au-delà de ce que les gens mangeaient, en fait, de la part de chaque espèce dans l'alimentation, puisque après c'est aussi les âges à l'abattage, c'est pas mal de données en fait sur les animaux eux-mêmes en fait.
Ah oui, ouais, par exemple s'ils étaient chassés ou s'ils étaient élevés, c'est ça ?
Par exemple, oui. Mm-hmm. S'ils sont que des animaux d'élevage ou s'il y a des animaux du gibier.
Et ça, on le sait ? Non, c'est pareil, on le saura plus tard.
Ben là, on le saura quand il y aura... Là, il n'y a pas... nous, en fait, on est uniquement les travaux préparatoires à une étude archéologique qui n'a pas eu lieu, en fait. Et donc là, j'avais deux personnes à plein temps sur le site pour tamiser, en fait, les sédiments qu'on prélève régulièrement. Voilà, il y a eu un premier tri aussi qui a été commencé pour optimiser le temps d'étude après. Oui, mais il n'y a pas encore eu cette étude-là.
Parce qu'il faut, c'est pas le tout de fouiller, mais il faut décortiquer après, n'est-ce pas ? Et même, alors depuis que vous fouillez, vous n'avez pas tout décortiqué, c'est ça ? Vous avez quand même eu des résultats. Vous avez eu le temps d'analyser.
Il y a des résultats spectaculaires.
Ouais,
oui,
par exemple.
Le château a quand même bien changé. On a pu mettre en évidence, simplement préciser la date de datation, mais on a toutes les phases de vie du château, l'extension, on a des petites enceintes qu'on a pu mettre en évidence une petite enceinte devant l'enceinte de basse, donc celle dans laquelle se trouvait le pont de vie en fait qui n'était pas connu, le boulevard Sillery non plus, donc qui s'engage en partie sous le bourg en fait, donc on a une partie du château qui continue sous le bourg de la Roche-Maurice.
Ah oui. Ouais. Bon, qu'on pourra peut-être pas fouiller. Enfin, il vous reste combien de temps
On pourra pas fouiller. Non, mais c'est intéressant de voir l'emprise de ce château. En fait, on n'en voit pas tout et Enfin, les gens ne se rendent pas compte de l'ampleur qu'il avait. En fait.
Il vous reste combien de temps de fouilles alors, programme ? Est-ce que ce sont des fouilles programmées ?
Mon programme, il reste 2 ans, là, oui.
Ça suffira déjà pour avoir un bon aperçu de la vie de ce château.
Ça sera très, 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 très juste. Mais oui, ça, c'est l'objectif que je me fixe. Oui.
Et vous publierez un livre pour nous ?
Et après, oui, il y a les études et ensuite les publications, oui.
Bon, bah, de toute façon, vous reviendrez, hein, forcément. On fait à peu près une émission par an sur le château. On va se fixer ça comme objectif. Merci, Ronan Ferenec.
Je vous en prie.
Et puis, on retrouvera, bien sûr, le Centre départemental d'archéologie et bien dans à peu près un mois, on va dire ça.
L'émission.